France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour David Thomas. J'ai lu Un frère et je dois dire que votre livre est un des grands textes de la rentrée. Vous m'avez vraiment saisi par vos interrogations sur votre projet d'écriture et aussi sur votre légitimité à le faire. Moi, vous lire et découvrir la vie de votre frère malade et bien sûr la vôtre aussi m'a totalement saisi et touché.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
L'un des grands textes de cette rentrée littéraire à votre programme du Book Club aujourd'hui, en effet. Le frère de David Thomas est mort en 2022 d'un double AVC. Il était schizophrène et si ce n'est pas la maladie qui directement l'a tué, sa mort en est indéniablement une conséquence. De là le besoin et non l'envie de l'écrire, ce frère, Édouard, son combat de boxeur contre le gouffre, sa manière de ne jamais céder, écrire la crasse, la souffrance et son masque, mais écrire aussi sa vie sensible, son rapport aux femmes, son énergie et le lien qui les unissait tous les deux, le petit frère et le grand. Le tout par fragments et dans un mouvement qui nous conduit des années noires à l'enfance lumineuse et à la description d'un être que l'on a presque l'impression, le livre refermé et la gorge serrée, d'avoir rencontré. David Thomas est notre invité. En fin d'émission, nous jouerons comme toujours à trouver de la musique dans un livre et la musique tient une place toute particulière. Dans celui de David Thomas, on entendra de quelle façon. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour David Thomas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce beau livre. Un frère, c'est son titre. Il a paru à la fin de l'été aux éditions de l'Olivier et est en lice pour recevoir tout un tas de prix. Le prix Fémina, le Goncourt des lycéens, le prix Vépler, le prix des lectrices de Elle aussi. Je crois, on va en parler longuement tout à l'heure de ce livre. Mais pour commencer ici dans le Book Club, on essaye d'abord toujours de faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs. Si tant est qu'ils ils ont eu un rapport à la lecture ancien. Quand est-ce que la lecture, elle entre dans votre vie, David Thomas? Quand est-ce que ça arrive pour vous?
Très tardivement. Au grand désespoir de mes parents. Oh, moi, je me suis mis à lire vers 16-17 ans. Avant, la lecture ne m'intéressait pas du tout. J'étais un enfant qui préférait les jeux extérieurs, les cabanes, des trucs comme ça. Mais je suis allé en pension. Et c'est en pension que je me suis mis à lire.
Et c'est passé par un professeur?
C'est passé par un surveillant qui m'a tendu un premier livre, puis un deuxième, un troisième, etc. Et là, je suis un peu rentré dans la lecture. Mais en fait, la vraie rentrée dans la lecture, c'était un peu plus tard, c'était avec Henri Miller. Parce que j'ai eu des très bons moments de lecture entre 16 et 18 ans à peu près, notamment avec Léo Mallet ou Kawabata. Mais l'éblouissement, le premier éblouissement, ça a été Henri Miller.
Et ça, c'est à quel âge alors?
À peu près 19-20 ans par là.
D'accord, pas si longtemps que ça après.
Oui, peu de temps après, quelques temps. Enfin voilà, j'avais le sentiment qu'il y avait avant juste un plaisir à lire. Et avec Henri Miller, ça a été, je suis passé à autre chose.
Et alors, est-ce que vous arrivez à vous souvenir d'abord quel livre?
Je crois que c'était, je sais plus si le premier c'était le premier de la trilogie ou la Crucifixion en rose ou si c'était le Tropique du Cancer, je me souviens plus, mais probablement le Tropique, puis après je suis passé à la Crucifixion en rose. Ça a été pour moi un choc, un vrai choc. Parce que c'est torrentiel, Miller, c'est absolument torrentiel. Et, ce qui me fascinait chez lui, c'était pas seulement littéraire, c'était pas une fascination littéraire, c'était une fascination de vie. Et moi, j'étais en plein questionnement sur ma vie. La vie me faisait peur. J'avais très très peur de la vie. Je savais pas du tout quoi faire de la vie.
Comme souvent à cet âge-là, par ailleurs.
Oui, mais ouais. Moi, c'était très très présent.
Ouais.
Et j'ai d'ailleurs, je me suis sauvé entre guillemets de ça. En décidant à peu près à cet âge-là que je deviendrais écrivain, ça m'a sauvé. Je me suis dit du jour où je me suis dit je vais faire ça avec. J'étais confondant de naïveté parce que je connaissais rien de la littérature, je n'écrivais pas. Enfin bon, mais j'avais pris cette décision et du jour où j'ai pris cette décision, la vie m'est apparue plus traversable.
Et est-ce que vous arriveriez à dire qu'est-ce qui, dans ce livre-là, fait que cette peur terrible, tout d'un coup, elle est...
Ce qui m'a fasciné chez Miller, c'est d'abord son sentiment de liberté. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre aussi librement que ça. Et c'était fascinant pour moi. Et puis, je me suis aperçu en le lisant que quand on arrive au pire des situations, il se passe toujours quelque chose qui la dénoue. Et je l'ai vécu, ça, un jour. Un jour, je suis parti vivre, quelques années après, j'avais 22 ans, ou par là. Je suis parti vivre en Espagne, à Barcelone, et je vivais de petits boulots, et j'étais parti sur la côte, l'été, pour trouver du travail, au début du mois de juin. Les copains barcelonais me disaient, va sur la côte, tu vas trouver dans les restaurants, tout ça. Et j'ai fait les villages, les uns après les autres, je faisais tous les cafés, et puis, et je trouvais pas. Et je me suis retrouvé avec l'équivalent de 5 francs en poche, enfin 100 pesetas. Ah, et là, je me suis retrouvé dans une situation assez... J'avais même pas de quoi me payer le car pour rentrer à Barcelone. Et j'ai dormi dehors pendant 6 nuits, je crois 5 ou 6 nuits, avant de... Et je me souviens d'avoir pensé à ce moment-là, je dormais sous une barque, sous une plage, parce que c'était interdit de dormir dehors, donc il fallait se cacher de la Guardia Civile. Et je me souviens avoir pensé à Miller. Un jour, voilà, il y a une copine qui vient me voir, me dit « Tu cherches toujours une place ?» Je dis « Ben oui. » Mais même si c'est pas serveur, je dis « Mais n'importe quoi, j'ai été plongeur dans un restaurant. » Et voilà, ça s'est dénoué, j'ai effacé l'été, comme ça.
Mais ça veut dire que très tôt, en fait, la littérature, elle a pour vous fonction, le mot est pas très joli, mais elle joue comme ça pour vous un rôle d'aider à vivre, quoi, mais de manière très tangible, très concrète.
Je n'ai jamais pris la littérature pour une fin. Pour moi, c'est pas une fin, c'est un moyen. Et en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, c'est toujours un moyen pour moi, c'est pas une fin. La littérature pour la littérature, ça m'a jamais parlé.
Je souris en vous écoutant parce que vous écoutant, je pense à votre livre dont on va parler et qu'il y a dans ce livre un renvoi très 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 fort vers la vie. Je dis la vie, non pas votre vie, parce qu'on est soi-même en tant que lecteur renvoyé à des images de sa propre vie et qu'il y a une lumière dans ce livre qui est très forte. On va en reparler. Vous parlez de Miller. Est-ce que comme ça, il y a eu d'autres...
Ah oui, il y a eu un moment... une épiphanie, une révélation pour moi, c'était la cerise de Tchekhov montée par Peter Brook. Là, je devais avoir 17 ans. Mes parents m'avaient emmené voir cette pièce. Et dans ma vie, il y a eu un avant et un après. J'étais stupéfait. C'était pour moi une quelle découverte. L'intelligence, la finesse de Tchekhov que j'ai découvert. Donc, j'ai commencé par découvrir l'auteur dramatique, l'auteur de théâtre, qu'on connaît plus en France que le nouvelliste.
De nouvelles, ouais.
Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Ils connaissent plus les nouvelles que le théâtre. Mais les nouvelles de Tchekhov, c'est une merveille. C'est un portraitiste hors pair. Moi, si vous voulez, ce que j'attends des livres, c'est de m'en apprendre sur la nature humaine. Et quand on lit Tchekhov, on en apprend beaucoup. Moi, j'adore les moralistes. Je les ai lus plus tard. Mais Tchekhov, pour moi, c'était ça. Et sur chaque personnage, c'est un très grand portraitiste pour moi.
Le livre pour lequel on vous reçoit aujourd'hui, on va en parler, il a une place un peu particulière dans votre œuvre, mais on peut peut-être, je profite du fait que vous parliez de Tchekhov et de ses nouvelles pour dire que les livres que vous aviez publiés avant celui-là ont la forme de ce que vous appelez vous-même, je crois, des micro-nouvelles.
Oui, des instantanées.
C'est une forme qui compte particulièrement pour vous.
Oui, ça relève de la photo, ce que je faisais. J'ai fait 7 recueils. On peut même pas dire que ce sont des nouvelles. C'est de l'instantané. J'attrape une émotion, un sentiment, un silence, un non-dit. Et j'ai fait ça pendant des années. J'en ai fait 7. Et ça relève un peu de la même chose que ce que j'attends en tant que lecteur. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'attraper chez mes personnages ce qui échappe. Vous voyez ? C'est pas de la sincérité, parce que la sincérité, c'est toujours vis-à-vis de quelqu'un. Mais la spontanéité, c'est quelque chose qui vous échappe. Et c'est ce qui m'amuse chez mes personnages de micro-nouvelles, d'instantané. Je les mets dans des situations où ils se livrent totalement parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et ça m'amuse, ça.
Dans ce livre, vous parlez aussi de votre rapport à la lecture, plus exactement du lien qu'il y a entre vos lectures et l'écriture. C'est très présent dans le texte. Et vous dites que habituellement, ça s'est passé un peu différemment pour ce texte-là, mais habituellement, aller vers votre bibliothèque, c'est une ressource pour vous, pour écrire, que vous piochez un livre, vous vous y plongez pendant quelques minutes, et puis, partant de là, vous tirez un fil. Ça a été le cas pour tous les autres livres.
Oui, quand j'avais pas d'idée pour écrire un instantané ou une micro-nouvelle, je me suis aperçu qu'en lisant, en picorant en fait, je feuillette. Il y a très souvent un fil qui sort, je tire et ça donne quelque chose. Une phrase chez Bukowski, je sais pas, enfin les auteurs de ma bibliothèque, je feuillette, ou Carver, et puis il y a une phrase qui me parle, et le texte qui en ressort n'a strictement rien à voir avec le passage que je viens de lire. Mais c'est pas ça. Ça ouvre des portes, en fait.
Et pour ce livre-là, au début, vous dites que ce coup-ci, ça marche pas. Et puis quand même, finalement, il y a des auteurs qui reviennent, que vous citez beaucoup. Et notamment, toute cette galaxie d'auteurs qui font partie de ce courant qu'on a appelé l'acméisme. Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam, notamment Joseph Brodsky, plus près de nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle place ils ont occupé, ceux-là, dans votre vie de lecteur, et non pas seulement dans l'écriture de ce livre, et peut-être aussi plus généralement, à quel moment, de quelle manière vous en êtes venu à lire de la poésie?
Alors, de la poésie en général, ça s'est fait avec mon parcours de lecteur jeune. J'ai commencé par lire des Français, puis après des Américains, etc.
Mais de vous-même, il n'y a personne qui vous dit « Tiens,
non.
Vous y allez vous-même.
» J'y suis allé aussi. J'ai un père qui était grand amateur de poésie, grand connaisseur de Saint-Jean-de-Perse.
Ah, donc vous ne lisez pas petit, mais il y avait des livres chez vous?
Beaucoup, mes parents étaient de grands lecteurs, et mon père nous récitait, du Saint-Jean-de-Perse ou du Mallarmé dans la voiture, ce qui nous avait ce qui nous endormait plus qu'autre chose. Mais j'ai grandi avec ça. Donc, il y avait beaucoup de livres chez nous, et mes parents étaient grands lecteurs. C'est ma mère qui m'a fait lire Blondin, et qui est une grande lectrice de Blondin. C'est à ma mère que je le dois, vous voyez. Donc oui, les livres, ils ont été toujours là. Et c'est pour ça que mes parents étaient un peu désolés que à 12, 13, 15 ans, je ne lise rien. Parce que c'est pas faute d'avoir essayé de me faire lire. Enfin bon, je me suis rattrapé après.
Et il a fallu que ça passe aussi par une tierce personne.
Peut-être.
Que ça vienne pas
d'eux. Oui, peut-être que c'est parce que ça venait... Bon, j'en sais rien, je sais pas, mais enfin... Je suis pas certain, parce que bon, voilà, vous savez, les enfants ont des natures. Moi, j'aimais le sport, j'aimais les batailles de marrons, enfin, des trucs comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est bien aussi. Parfois, ça peut coexister avec la lecture.
On vivait en bande, hein, à l'époque, hein, que ce soit à Bougival ou à Varangeville, on était en bande de gamins. Donc, voilà, on avait des jeux qui étaient...
Et ces Russes, alors, je parlais de Akhmatova, de Mandelstam, donc qui figurent, qui sont cités. Le livre se termine par un poème absolument magnifique de Mandelstam en épilogue. À quel moment du parcours de votre parcours de lecteur?
Les Russes étaient venus un peu avant, mais j'ai mis sur plongée, en fait. Mais je me suis aperçu complètement par hasard, c'est probablement ce que vous évoquez, qu'en écrivant le livre, bon, comme vous le disiez tout à l'heure, très souvent, moi, quand j'ai du mal, je lis, j'ouvre des livres, les livres des autres. Et il y a des choses qui en sortent, ou pas, mais souvent, il y a des trucs qui en sortent. Et là, j'avais une difficulté évidente à écrire ce livre, et donc je suis allé voir chez les autres. J'ai lu de la l'autofiction, des livres qui racontent des drames, etc., etc. Mais ça provoquait rien du tout. Et puis, alors, je suis retourné à mon manuscrit, je m'en débrouille. Et puis, au bout de quelques temps, je me suis aperçu que ça faisait des mois qu'en fait, je ne lisais que de la poésie, et pas n'importe laquelle, beaucoup de poésie russe. Et j'ai compris, c'est ce que je raconte dans le livre, pourquoi je lisais, inconsciemment, pourquoi je lisais cette poésie. Parce que ces écrivains-là ont vécu et écrit sous une tyrannie, sous la tyrannie stalinienne. Et mon frère vivait sous une tyrannie. La maladie mentale, c'est une tyrannie. Mais ces poètes-là étaient souvent relégués. Et la maladie mentale, c'est une relégation. Donc je retrouvais des parallèles entre mon frère, vers lequel je remontais, je m'approchais pendant l'écriture de ce livre, et cette poésie. Et puis, je m'apercevais que, parce que les acmeïstes, c'est une poésie qui est assez concrète, c'est pas du tout, ils ont conçu cette poésie en réaction au symbolisme. Donc Mandelstam considérait que c'est le mot qui fait la poésie, et le mot nomme une chose concrète, précise, donc tout peut être poétique. Le quotidien, la vie de tous les jours, peut-être les choses, les objets peuvent être poétiques. Et ça me parle beaucoup, moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez concret, je suis pas un intellectuel au sens où je n'intellectualise pas beaucoup. Alors ça me parle énormément. Et puis c'est une poésie que je trouve il n'y a pas de lyrisme dans cette poésie-là. J'allais dire c'est sec, mais c'est pas sec, c'est très précis. C'est extraordinairement précis. Paradoxalement, j'adore la poésie de Bukowski, qui, elle, est assez lyrique, mais qui part du prosaïque. Ça part du prosaïque pour arriver à quelque chose d'assez lyrique. Mais ça part toujours du prosaïque, ça part du quotidien, ça part des choses très petites, très simples. Et ça me parle beaucoup. Et voilà comment je suis arrivé à cette poésie des Russes. Au bout de la fin, tu dis, je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est en fait, t'as pas fait exprès. Mais je cherchais à rejoindre mon frère à travers la lecture de ces grands poètes.
Dans le livre, vous parlez beaucoup, je l'évoquais très rapidement en introduction, du lien très fort que votre frère entretenait avec la musique. Il était guitariste, il aimait énormément le blues. Est-ce qu'il avait lui aussi un lien à la lecture? Est-ce qu'il lisait?
Non, il lisait, mais ce n'était pas un grand lecteur. Il y avait quelques auteurs qu'il aimait, mais on parlait peu, assez rarement de livres avec lui.
C'était pas un domaine de partage?
Non. La musique beaucoup, mais le livre moins.
Il se trouve qu'on a appris il y a quelques heures, juste avant l'émission, que le prix Nobel de littérature a été décerné aujourd'hui à l'écrivain Laszlo Krasznahorkai, né en 54, et surnommé par Susan Sontag le maître de l'apocalypse. Nobel qui récompense donc un écrivain hongrois, 23 ans après le Nobel décerné à Imre Kertész. Sans vouloir du tout vous piéger, David Thomas, puisque vous êtes face à moi, je vous pose la question, est-ce que c'est un écrivain que vous avez lu?
Non.
Bon, moi non plus, mais j'en profite pour signaler à nos auditeurs que de très nombreux programmes sur notre antenne, sur le site de France Culture aussi, et très certainement dans cette émission, lui seront consacrés très prochainement pour le découvrir. On va aller d'ici là vers votre livre à vous, David Thomas. Avant cela, on va écouter un titre de la chanteuse, guitariste et compositrice belge Meskerem Mess. On est un certain nombre ici en France à l'avoir découverte il y a quelques années dans un très beau spectacle de la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaeker qui s'appelait Exit Above, construit autour de la musique de Robert Johnson, un bluesman parmi ceux que votre frère aimait beaucoup, David Thomas. Par association d'idées, on a repensé à cette chanson composée par Meskerem Mess et qui s'appelle Where I'm From.
2, 3, 4. Where I'm from, Sunday's the first day of the week. Where I'm from, you'll find wine instead of water in the creek. Where I'm from, the strong, they live off of the weak. Where I'm from, the boys, they are dressed like girls in pretty skirts. They twist each other's hair into curls. Where I'm from, nobody walks, everybody twirls. And where I'm from, there's no king or queen, and that's fine. They use the sun and the moon to tell the year and the time. Where I'm from, it's far from here, but it's mine. Far from here, but it's mine. Where I'm from, Sunday's the first day of the week. Where I'm from, you'll find wine instead of water in the creek. Where I'm from, the strong, they live off of the weak. Where I'm from, the boys, they are dressed like girls in pretty skirts. They twist each other's hair into curls. Where I'm from, nobody walks, everybody twirls. Queen, and that's fine. Use the sun and the moon to tell the year and the time.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Je n'ai rien à ajouter de pertinent, ni sur la maladie mentale, ni sur la mort, ni sur le deuil. D'autres l'ont fait bien mieux que moi avant et le feront bien mieux que moi après. Je ne suis pas un écrivain qui traite son sujet, je n'ai jamais su faire ça, et surtout ça m'emmerde de faire ça. Et puis je ne crois pas une seconde qu'écrire soulage. Ce sont vos mots, David Thomas, dans l'un des premiers chapitres de votre livre, écrit peu de temps après la mort de votre grand frère, l'un de vos grands frères, Édouard. Des mots qui arrivent pour nous, lecteurs, peu de temps avant le récit du jour où vous l'avez trouvé sans vie chez lui. Édouard était schizophrène et sa mort brutale fait écho à une perte plus ancienne, un éloignement de 40 ans durant lesquels la maladie vous a privé chaque jour un peu plus de lui. Alors vous nous racontez sa mort, la découverte de son corps, l'hébétement, le tri des affaires, et vous remontez le fil, les premiers signes de la maladie, la drogue, les hospitalisations, les crises, la crasse, mais aussi son rapport aux femmes, à la musique, son intransigeance, sa sensibilité, sa manière de ne jamais cesser de lutter, et au bout du chemin, l'enfant et l'insolence d'un pur bonheur partagé. Un livre dont le titre sonne double, pour finir. Un frère, c'est lui, bien sûr, mais c'est aussi vous, le petit frère, à travers le regard duquel on découvre le grand. Ce livre a paru aux éditions de L'Olivier et on vous retrouve pour en parler, David Thomas. Je vous propose qu'on en écoute un premier extrait. La folie renvoie dans notre langue et notre culture à deux interprétations radicalement contradictoires. Une excentricité, une singularité, une indépendance élégante et gracieuse d'abord, face à la norme fade et emmerdante. Quel grand fou, il est foufou, faire une folie, aimer follement, un truc de ouf. Version colorée et pétillante du mot que l'on utilise pour désigner quelqu'un ou quelque chose d'original en marge. Cette première lecture du mot allège ce qui ne peut être allégé, car rien n'est plus pesant, plus lourd que la folie. Et puis cette lecture est vidée de ce qui est son essence même, l'aliénation, c'est-à-dire la perte du jugement, du libre arbitre, la dépossession de sa raison, de son autonomie, de sa crédibilité, la dépossession de tout ce qui fait soi. L'essence même de la folie, c'est la seconde lecture, la plus obscure, la plus sombre, que même la psychiatrie n'utilise plus depuis longtemps et qui désigne un enfermement mental, une souffrance indescriptible d'être coupé des autres et de soi, quelque chose qui vous met hors du monde sans votre consentement, tout en vous faisant croire, et c'est là toute la subtilité du vice, que vous en faites encore partie. Celle-là, évidemment, est la plus dure. Alors quand je lis, dans un article sur Sylvia Plath, d'un écrivain critique qui ne semble pas avoir approché beaucoup d'aliénés, je cite « Les malades mentaux font d'extraordinaires narrateurs, car tout ce qu'ils disent est original, décalé, comique. Ce qu'on cherche dans un roman, c'est fuir la banalité. Beaucoup d'auteurs devraient faire un séjour en HP pour voir l'existence sous un angle différent. J'ai envie d'emmener son auteur à Sainte-Anne. » Pas pour un reportage d'une semaine, non, mais pour un mois ou deux, afin qu'il voie de près la texture du supplice, qu'il la touche, qu'il la sente, l'haleine provoquée par certains médicaments, qu'il vive l'ennui, le vide, la peur, l'angoisse, la solitude, l'exclusion, l'épuisement, l'infantilisation, les dysfonctions du corps et les courts-circuits de l'esprit. Je voudrais qu'il prenne 40 kilos, qu'il transpire à tremper ses vêtements, qu'il perde ses dents, que ses mains tremblent comme celles d'un parkinsonien, qu'il ait du mal à chier, à bander, à parler, à voir, à marcher sans trébucher et à comprendre où il est. C'est un extrait du deuxième chapitre de votre livre, David Thomas, que je viens de lire. Livre qui est traversé par tout un panel d'émotions. Mais l'émotion qu'on entend là, c'est la colère. Est-ce que la colère, c'est l'une des émotions qui a été pour vous un déclencheur de l'écriture de ce livre-là ?
Oui. Je peux dire que ça m'a mis devant mon bureau. Cet article m'a mis devant mon bureau. En fait, ce livre, je le raconte, je le portais en moi depuis 20 ans. C'est 20 ans que je projetais, que j'avais envie de, enfin, je sentais qu'il fallait que j'écrive là-dessus. Sur ça. Mais j'y arrivais pas. Je tournais autour. Enfin, bon. Mais quand j'ai lu cet article un an après la mort de mon frère, ça m'a un peu, mon premier réflexe a été effectivement l'agacement. Ça m'a agacé. Et ça a au moins eu l'effet de me pousser à m'y mettre.
De vous mettre au travail.
De me mettre au travail. Donc c'était peut-être pas plus mal. Mais je reconnais que la lecture de Starkey m'a un peu mis en colère parce que, de toute évidence, on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Et que ce qui m'agace un peu avec cette conception assez romantique qu'on a de la folie, c'est qu'elle est très très loin de la réalité et que probablement que ça nous vient des poètes du 19e siècle. Enfin, on prête à la folie des choses qui sont pas vraies, qui sont vraiment... Et c'est pour ça que moi, avec mon frère, je ne parle pas de folie. Moi, je ne considère pas que mon frère était fou. Je considère que mon frère était malade. Mmh. Il avait une maladie. Donc, c'est encore autre chose, vous voyez. Mais le mot folie, pour moi, c'est un mot poubelle. On peut mettre tout et n'importe quoi. Hein. Tout est son contraire dans ce mot-là. Donc, lire ça, ça m'a un peu, oui, énervé.
Ouais, là, vous dites cette romanticisation, oui. le fait de romanticiser la folie vient sans doute en effet du 19e siècle, mais aussi tout simplement et de manière plus contemporaine peut-être de l'ignorance. C'est-à-dire que même s'il y a énormément de malades mentaux, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas au contact de ce que c'est que la réalité de la folie. Et votre livre, il a aussi cet effet de déciler un peu là-dessus. On en ressort en partie un peu décilé. Est-ce que c'était une
tout à fait.
Aussi un moteur?
Je suis d'accord avec vous. Ce qui est, et d'ailleurs, la colère contre cet écrivain, journaliste, s'est très vite calmée. Parce que très vite, je me suis dit, mais en fait, écoute, c'est stupide, tu ne peux pas t'énerver. Il sait pas, c'est l'ignorance. Ouais. Il ne sait pas. Et moi, ce que je voulais... En tout cas, je ne savais pas ce que je voulais faire avec ce livre. Ça, c'est certain, en m'y engageant. Mais je savais... ce que je ne voulais pas faire. Enfin, ça, j'étais certain que si je devais évoquer ce qu'a traversé mon frère, je le ferais de façon cache. Je ne cacherais pas la réalité de ce qu'il a vécu, traversé, et de ce que nous aussi, sa famille, avons vécu.
C'est-à-dire ce que vous ne vouliez pas faire, c'est enjoliver, d'une certaine manière.
Non, je
ne
voulais pas enjoliver, je voulais montrer la réalité telle que nous l'avons vécue. Elle est âpre, elle est sombre, elle est noire, elle est brutale. C'est ça la réalité des malades, enfin en tout cas de la maladie de mon frère. Je peux pas parler de la maladie mentale, mais en tout cas de celle dont souffrait mon frère, c'était ça. C'est tout sauf le roi de cœur de Broca, vous voyez. C'est pas du tout léger, c'est pas du tout charmant, du
ça
tout.
Ça n'a rien de non. charmant. C'est la souffrance. Vous disiez, c'est un livre que ça fait 20 ans que je sais que je dois l'écrire. Au début du livre, vous avez cette formule, vous dites je n'ai pas envie de l'écrire, pardon, mais j'ai besoin. Il y a aussi un chapitre qui s'appelle L'interdit, je crois, et dans lequel, pas loin de cet extrait que je viens de lire, et dans lequel vous mettez aussi en scène un dialogue imaginaire avec votre frère qui vous engueule d'écrire le livre, pour le dire vite et pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu c'était quoi ce besoin et c'était quoi cet interdit?
Ben, ce besoin, c'était... Je sais pas comment expliquer ça. C'est l'histoire de ma vie. C'est ce lien avec mon frère. C'est le nœud de ma vie. Donc quand on est écrivain, eh ben, il y a une évidence dans la nécessité. Mais moi, j'ai jamais eu de nécessité à écrire des livres. Mais là, celui-là, il y avait une nécessité. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai toujours eu envie d'écrire mes livres sans aucune nécessité. Mais celui-là, j'avais besoin de l'écrire. J'avais pas du tout envie. Absolument pas envie, parce que je savais ce que j'allais traverser en l'écrivant. Donc, voilà. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, que j'ai oubliée...
L'interdit.
Oui, l'interdit. Évidemment, l'interdit. C'est tout à fait normal. Mon frère n'aurait pas accepté que j'écrive un livre sur lui de son vivant. Moi, j'aurais été à sa place, je ne l'aurais pas accepté non plus. Là, pour le coup, on peut pas. C'est tout à fait normal. Et donc, bah oui, ce dialogue imaginaire que vous évoquez, mon frère qui me dit, mais ce qui est normal, parce que si vous voulez, ce qui était très difficile pour lui, c'est qu'il était bien conscient qu'il était malade, mais c'était difficilement acceptable. Parce que ça vous enferme dans quelque chose dans lequel on... Le malade, c'est ça qui est affreux, je trouve, avec ces maladies. C'est que les malades sont parfaitement conscients, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Ouais. Hein,
ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils vivent, où ils sont. Donc, c'est terrible, parce qu'ils sont obligés d'accepter. Et en même temps, il y a quelque chose en eux qui refuse. Et quand je parle du combat de mon frère, c'est ça. Mon frère s'est battu toute sa vie pour essayer de ne pas être qu'un malade mental. Et ce que je raconte dans le livre, ce qui a été terrible, c'est que plus ça avançait, et plus il disparaissait derrière la maladie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre à rebours, pour remonter à la source de l'homme et du frère qu'il était pour moi.
Oui, parce que...
Mais l'interdiction, oui, elle est tout à fait légitime.
Ça commence comme ça, ça commence par le récit de ces deux pertes, c'est-à-dire que le livre s'ouvre peu ou prou sur le récit de la mort de votre frère. C'est vous-même qui trouvez son corps mort chez lui, mais vous nous dites très vite que cette perte-là, qui d'une certaine manière, qui est terrible, mais qui d'une certaine manière était hélas attendue, et qui est voilà, le terme de sa vie, elle renvoie à une perte plus fondamentale ou d'une nature plus comme un abîme d'une certaine manière qui est la perte initiale qui est celle qui vous sépare de votre frère depuis le début, depuis la maladie.
C'est ce que j'explique et ce que je dis au début du livre, j'ai perdu deux fois mon frère. Et la première perte aura été un éloignement de 40 ans pendant lequel la maladie m'a éloigné de mon frère. Et puis la deuxième, c'est lorsque je l'ai découvert mort chez lui. Mais effectivement, c'est 40 ans. C'est interminable, 40 ans. Et moi, j'ai été dans le déni pendant au moins 10 ans. J'ai refusé d'admettre que mon frère était malade, quand mes parents avaient très bien compris, notamment ma mère. Et ma mère avait tout de suite compris.
Vous le racontez dans le...
Oui, je crois que ma mère a tout de suite compris de ce qui se passait. Mais moi, je ne voulais pas l'admettre. C'était trop dur pour moi, c'était trop inadmissible. Et puis, il y a bien un moment, vers 30, 33 ans, j'ai bien été obligé de... Alors que j'avais été déjà de nombreuses fois le voir dans des hôpitaux psychiatriques, et je savais qu'il prenait des médicaments régulièrement. Enfin, vous voyez, c'était le déni total.
Ouais.
Mais mon frère, vraiment, c'est ça. Il a lentement, mais inéluctablement disparu. Et je l'ai perdu. Cette perte a été très lente. Très lente. Et ça, c'était assez difficile pour eux.
Je voudrais qu'on écoute la voix d'un écrivain que vous connaissez, je crois. C'est Jean-Paul Dubois. Il intervenait dans une émission en 2007 sur France Inter et il parlait de la mémoire et du travail d'écriture. On l'écoute.
La vie quotidienne a ceci de formidable, c'est que c'est une sorte de tête d'effacement, comme il y en avait autrefois sur les magnétophones. Une fois que c'est lu, c'est effacé. Et la vie quotidienne a cet extrême pouvoir de nettoyer au fur et à mesure, quoi. Tandis que lorsque vous avez du temps et que vous avez commencé à réfléchir à des choses auxquelles embarrassantes, et l'écriture en fait partie, vous commencez à faire revivre les morts, vous commencez à vivre avec eux, avec les absents, avec les pertes, avec tout ce qui manque. L'écriture a beaucoup plus tendance à vous faire raconter tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous avez manqué, tout ce qui vous a blessé ou tout ce qui vous fait peur, que enfin, dans mon cas, plutôt que de raconter des trucs gays, joyeux, optimistes, avec un soleil qui se lève à l'est et qui se couchera à l'ouest, et la garantie que demain sera un autre jour, quoi. Mais bon, ça, c'est le truc de chacun. J'étais pas obligé. Écrire, c'est pas obligatoire, quoi. Lire non plus, donc si j'ai fait ça, j'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Je sais pas, c'est un boulot de légiste aussi. C'est pas noble, quoi, comme activité. Pour vous donner un exemple qui n'a rien encore d'impudique, mon père est mort il y a très très longtemps. Et c'est en écrivant un livre 20 ans ou 25 ans après sa mort que j'ai ressenti son parfum. En décrivant sa voiture, et moi à côté, quand j'étais enfant, dans une vie française, j'ai commencé à raconter un de nos voyages. Et tout d'un coup, son eau de toilette est revenue comme ça. C'est-à-dire que la mémoire, cette vase-là qu'on a en nous, qu'on a accumulée pendant des années, sous l'effet d'un livre ou du temps ou d'une écriture, ou tout ça va remonter. Donc... Vous curez une rivière sans fin, vous curez une mémoire. Mais c'est aussi quelque chose... Bon, il n'y a pas que ça non plus, quoi. Non, mais il y a ça, quoi. Il y a ça. C'est pas simple.
C'est pas simple, nous dit Jean-Paul Dubois dans cet archive de 2007. Il était interrogé par Rebecca Manzoni pour Éclectique sur France Inter. La vie quotidienne nettoie, l'écriture fait remonter les choses de la vase mémorielle, dit-il. David Thomas, est-ce que ce mouvement-là, d'aller plonger ses mains dans cette fange-là, c'est quelque chose que vous avez l'impression d'avoir ressenti pour ce livre-là, pour Un frère ?
Complètement. Je peux pas mieux dire que Jean-Paul Dubois, pour qui j'ai une immense admiration. Mais c'est tout à fait ça. Je l'explique, parce que moi, je me suis mis vraiment à l'écriture un peu plus d'un an après sa mort. Et puis, au bout d'un an, j'ai eu le Goncourt de la Nouvelle, ce qui était une fête, quoi, ce qui était un moment très joyeux, très heureux, un an après, pile un an après la mort d'Edouard. Et, après ça, après cette fête, ce moment très joyeux, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut s'y mettre. Et c'est exactement ça. J'avais pas envie de remettre j'allais remuer la vase. Et la vie, c'est justement espérer que les sédiments retombent pour que l'eau reprenne sa clarté, pour qu'on y voit un peu plus clair. Mais écrire, c'est ça. Écrire, c'est remuer la vase. Aller chercher tout au fond ce qu'il faut aller chercher. Et puis, petit à petit, grâce à l'écriture, les choses se clarifient. Voilà, les sédiments retombent au fond. D'ailleurs, dans le poème de Mandelstam que vous évoquez, il parle de ça, le limon. Il évoque ça, le Mandelstam. C'est pour ça que j'adore ce poème, qui est absolument sublime poème, que j'aurais tellement aimé lire à mon frère. Mais... voilà, c'est ça, oui, l'écriture, c'est fait pour ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour ce genre de livre, c'est un peu ranger sa chambre. On range, vous voyez ? Parce que vivre, c'est mettre du désordre. Les émotions, les liens, ça met du désordre dans la vie. Et par moments, on a besoin de ranger un peu. On sait que c'est temporaire. Je suis comme Jean-Paul Dubois, je me fais pas d'illusions. C'est pas réglé parce que j'aurais écrit le livre. Mais pendant un moment... j'aurais au moins le sentiment que c'est un peu plus organisé, que j'ai un peu plus prise sur le réel, que je suis moins sous la tutelle du réel, grâce à l'écriture.
Et est-ce que Jean-Paul Dubois raconte cette chose très étrange, que voilà, 25 ans après la mort de son père, il écrit, et c'est l'écriture qui fait ressurgir la mémoire olfactive, la mémoire de l'odeur de son père. Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre-là qui se sont produites pour vous, David Thomas, dans l'écriture de ce livre ? Parce qu'on a commencé à le dire, mais ce livre, il a vraiment un mouvement, et c'est d'ailleurs en soi très émouvant, parce qu'au tout début du livre, vous nous parlez avec une justesse saisissante de la façon dont la souffrance, du masque de souffrance que vous voyez régulièrement sur le visage de votre frère, et qui est le produit de la maladie, de la schizophrénie, et face à cette chose figée, le livre il propose un mouvement. Vous allez du récit de sa disparition, de cette souffrance, vers l'enfance, vers les souvenirs, dans des scènes qui sont elles-mêmes des scènes de mouvement. Vous nous disiez, moi, quand j'étais petit, j'aimais courir. Il y a des scènes comme ça dans le livre, notamment à la fin. Est-ce que c'est aussi en les écrivant que ces scènes, elles ont ressurgi?
Oui, complètement. Vous. Je savais pas que je décrirais ces moments-là. Je savais, si vous voulez, je savais vers où j'allais. C'est comme quand on voyage, on sait vers où on va. On connaît la destination à peu près, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va y voir, ce qu'on va y vivre. Et là, c'était un peu la même chose. Je savais, moi, que je voulais remonter parce que je voulais absolument garder une image de mon frère. Mais au fur et à mesure de mon avancée, et je suis arrivé, et effectivement, le passage où on fait du poney dans les collines du Perche, j'avais pas cette idée en tête avant. Et puis, nous y sommes arrivés parce que le livre m'y a emmené, tout naturellement.
On va l'écouter, ce passage. Une fois nos sandwichs terminés, il me proposa de faire une course dans les allées du bois. Je n'avais pas son expérience de l'équitation, et lorsque Jaguar galopait, je m'arrangeais toujours pour le contenir. Je savais qu'il pouvait être très rapide et craignais manquer de distance pour le ralentir et le ramener au trot. Édouard choisit une allée bien droite, sans trop de dénivelé. Nous nous mîmes à côté et il donna le départ. Pionnier partit le premier et sans que j'aie quoi que ce soit à faire, son fils lui emboîta le pas. L'aîné avait 2 ou 3 foulées d'avance, mais Jaguar accéléra pour le dépasser au bout d'une 50aine de mètres. Je doublai Édouard avec jubilation en hurlant de joie. Mais mon avance ne dura guère et Pionnier reprit l'avantage. Puis ma monture, spontanément, accéléra de nouveau. Je laissai la bride suffisamment lâche pour ne pas serrer le mors dans sa bouche et m'accrochai à sa crinière. Il repassa devant. Je n'avais jamais galopé à cette allure, mais étonnamment, je n'avais pas peur. Édouard ne semblait pas non plus pousser son cheval, mais le laisser aller comme il souhaitait. De toute évidence, les 2 poneys faisaient la course naturellement, le fils souhaitant montrer au père ce dont il était capable, le père voulant bien montrer qu'il restait le patron. Dès qu'un poney dépassait l'autre, le second accélérait pour lui repasser devant. Au terme d'un bon kilomètre, Pionnier avait une encolure d'avance sans parvenir à gagner davantage de distance. Entier et plus grand, il possédait plus de puissance que son fils, mais ce dernier montrait autant de persévérance que de hargne pour ne pas se laisser battre facilement. Anticipant la fin de l'allée, Édouard ralentit la cadence pour éviter un arrêt trop brutal. Je venais de vivre un moment magique et fus pris d'un fou rire tant la joie explosait en moi. Édouard et moi, nous nous sommes regardés, hilar et stupéfaits de cette complicité entre les bêtes et nous, conscients de vivre là un moment qui resterait dans nos mémoires et nos cœurs. Après quoi, nous avons trotté quelques minutes pour faire ralentir les battements cardiaques, puis nous avons repris lentement le chemin du retour. Nous nous taisions, nous parlions, parfois il se retournait vers moi, prenant appui d'une main sur la croupe de Pionnier et m'envoyait un sourire papillonnant. Ce sourire des collines, il est en moi comme une terre d'enfance que l'on veut préserver, ces lieux où il ne faut jamais revenir pour ne pas les dégrader, pour les laisser simplement abreuver nos vies. Ce passage, David Thomas, il arrive presque à la toute fin du livre, mais presque, parce que juste après, vous reprenez la plume, vous dites que vous n'avez pas envie de finir ce livre, et puis aussi, on sent que vous ne voudriez pas terminer sur cette note absolument lumineuse. C'est comme si vous vous débattiez un peu avec cette lumière si puissante qu'envoie le récit de cette scène-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Moi, je l'ai ressenti comme une sorte de... Oui, comme une sorte de bagarre. Le livre va vers la lumière et en même temps, il y a quelque chose dans cette lumière dont vous vous défendez presque.
En fait, c'est pas que je m'en défends. C'est que j'ai conscience... C'est difficile d'être juste sur ce truc-là. Parce que... Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est toujours seul quand on écrit. On est seul. On est seul quand on écrit, on est seul quand on lit. C'est pour ça que j'avais toujours trouvé les rencontres entre les auteurs et lecteurs toujours un peu... J'y crois pas beaucoup, en fait. Parce que ce qui se passe, la rencontre, elle se fait avec le texte. Le lecteur, il rencontre un texte, il rencontre pas un auteur. C'est pas la même chose. Et quand on écrit, on est seul avec un texte. Mais... Avec ce livre-là, j'ai eu un moment à la fin du livre où je me suis dit « Attention à ne pas être trop seul avec ce texte. » Parce que là, t'es vraiment très très seul avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous lu des livres sur des gens qui écrivent sur des auteurs qui écrivent sur des proches, des disparus, des gens qu'ils ont aimés, qu'ils ont perdus, etc. Et il y a une espèce de réflexe qui est tout à fait normal, d'ailleurs je le dis, c'est qu'on glorifie beaucoup. Et moi, au moment où ce texte reposait un peu comme une pâte, ce livre reposait un peu comme une pâte, je l'ai fait lire à ma meilleure amie et à ma femme. Et les deux, avec beaucoup de prudence et de délicatesse, m'ont fait comprendre que j'ai eu aussi ce travers. Alors, ça m'a permis de faire un petit pas de côté, prendre un tout petit peu de recul par rapport au manuscrit, et de me dire, mais en fait, est-ce que toi aussi, tu serais pas tombé dans le piège que tu soulèves chez ceux que tu as lus? Et je me suis aperçu que oui. Mais je me suis surtout aperçu que je l'avais fait, quand bien même je l'aurais fait inconsciemment, ce qui n'est pas tout à fait sûr, j'en sais rien. Mais bien sûr que je suis tombé dans le piège. Oui, je suis tombé dans le piège de faire de mon frère cet être exceptionnel qu'il a été pour moi. Et je l'ai fait avec un immense plaisir.
Oui, c'est étonnant parce que oui et non. Moi, je trouve qu'en vous lisant, oui, il y a quelque chose peut-être, mais j'utiliserai pas le terme glorification, mais il y a quelque chose. En effet, on voit votre frère à travers le regard de l'enfant, petit frère que vous avez été et qui est un regard pétri d'admiration, mais comme l'est
oui,
le regard de l'enfant sur le grand frère, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Ce qui est, vous avez raison. Mais moi, le lecteur ne le sait pas, ça. Le lecteur, il lit l'histoire d'un homme, il lit quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est mon frère. Donc, si vous voulez, je ne peux pas limiter l'image, parce que de quoi il s'agit finalement ? Il s'agit de finir sur une image de quelqu'un, une photo, voilà. Il s'agit d'avoir une image, l'image de quelqu'un. Et cette image de ce quelqu'un, c'est mon frère, c'est Édouard Thomas. Alors, évidemment que moi, le petit frère que j'ai toujours été, et que même à mon âge encore, quand je pense à mon frère, je suis le petit frère de 12 ans qui parle de lui. Je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est juste le lien entre lui et moi. Et si je veux finir sur une image, il faut que je sois un peu objectif aussi. Donc, c'est là-dessus où j'ai eu une toute petite... Mais, bon, je pense que il y a un côté petite pirouette là-dessus, mais... J'essaye de dire, voilà, c'est que moi qui le vois comme ça. Vous ne pouvez pas le voir comme ça, puisque de toute façon, mon frère était comme tout le monde, comme vous, comme moi. Il avait des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts. Certains le pouvaient trouver totalement insignifiant, d'autres passionnants, très attachants, etc. Comme tout le monde, finalement.
Mais vous disiez tout à l'heure que votre écriture, elle procède par instantané, et ce livre-là aussi, absolument. Oui. On n'a pas parlé de sa forme, mais c'est une succession de chapitres court, très court parfois, un peu plus long.
Mais comme l'est la mémoire.
Oui, absolument.
Comme l'est la mémoire. La mémoire n'est pas rectiligne. La mémoire, c'est des moments. C'est pour ça que je procède comme ça.
Oui, mais ça produit aussi quelque chose sur le personnage qui surgit du livre pour nous, lecteurs, bien sûr. Hein. C'est pour ça que j'emploie le mot personnage, non pas la personne. Mais du coup, ça produit aussi quelque chose comme un portrait avec beaucoup de facettes, comme un truc... kaléidoscopique.
Mais nous sommes tous faits d'une multitude. Nous sommes des mosaïques. Hein, nous, donc mon frère aussi, il avait plusieurs facettes. Il pouvait être brillant, mais il pouvait être très chiant. Il pouvait être colérique. Il pouvait être lourd. Il pouvait être passionnant. Il pouvait être attachant. Il pouvait être très très drôle, très très drôle. Il pouvait être très généreux. Avec moi, il a été d'une générosité. Enfin, il a été avec ma mère. Ma mère est d'une extraordinaire générosité, mais mon frère a été avec moi. Ce qui n'est pas toujours le cas des aînés, vous savez, parce que souvent l'aîné, bon, les petits derrière qui traînent, on a envie de se débarrasser un peu des petits. Et mon frère a été toujours extrêmement généreux avec moi. Donc voilà, il est comme vous le disiez, il est toute cette multitude et oui, enfin je sais pas si le côté instantané, mais moi j'ai voulu montrer la complexité de l'individu qu'il était derrière le malade en fait. C'était ça l'objectif du livre, c'était montrer qui il est, quel homme il était derrière le malade.
Vous parlez de sa générosité, l'un des chapitres peut-être les plus bouleversants du livre, c'est un chapitre où vous allez chez lui, vous nettoyez sa cuisine, parce que vous racontez pas mal dans le livre la saleté qui est la crasse de son appartement, qui est l'une des conséquences aussi de sa maladie.
Parfois.
Parfois.
J'y tiens beaucoup.
La saleté,
oui.
Sur la saleté, parfois.
Parfois.
Absolument. Ce que je dis est peut-être contrebalancé de plein d'autres choses.
On parle beaucoup de ces passages parce qu'ils sont assez... Peut-être c'est dur, enfin c'est vrai que il faut avoir vu ça pour le croire, mais c'est parfois l'appartement de mon frère, il lui arrivait, notamment à la fin de l'été, de se laisser aller un peu comme un Robinson dans sa souille, mais c'était temporaire.
Oui, je voulais absolument pas le réduire à cette image-là. Je me souvenais simplement de ce moment-là et il vous remercie à ce moment-là. Enfin, il vous remercie pas, il vous dit mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour toi ? Et vous lui répondez tu n'as pas idée. Et c'est comme si d'une certaine manière le livre était une sorte de développement de cette chose-là, de ces quelques mots-là, tu n'as pas idée.
Oui, mais le livre bascule. C'est le basculement du livre. À ce moment-là, le livre bascule de, justement, et là, je vais vous expliquer en quoi tu n'as pas idée ce que tu as fait pour moi. Mmh. Et c'est à ce moment-là oui. qu'on se dirige vers la lumière. C'est le basculement du livre, il est là.
Je vous propose qu'on écoute la question de Thomas, qui est un auditeur du Book Club, qui vous a lu et qui anime aussi la librairie Les Amandiers à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Il vous adresse donc cette question.
Bonjour le Book Club, bonjour David Thomas. J'ai trouvé que vous aviez une écriture à l'os, comme on dit, qui m'a beaucoup plu. Il n'y en a jamais trop et en même temps, tout semble réfléchi et dit avec finesse et prudence. Et ça, eh ben, c'est assez rare et précieux, je trouve. Je crois que ce qui fait le sel de votre livre, malgré la gravité de son sujet, hein, qui n'épargne pas le lecteur, eh bien, c'est son côté lumineux. Votre livre, c'est d'abord de très belles pages sur l'amour, sur la beauté de la vie, la fraternité. Et moi, eh bien, c'est d'abord de ça dont je parle au lecteur de l'Amandier. J'ai une question pour vous, David, par rapport à la réception de votre livre dans votre entourage. Je me demandais quelle a été la réaction et les retours de vos proches après la lecture, et particulièrement pour ceux qui ont connu votre frère. Merci pour votre réponse, David.
Merci à vous, Thomas, pour cette question. David Thomas.
Alors, les proches, il y a le premier cercle, c'est la famille, c'est-à-dire mon frère aîné et mes parents. Mon frère aîné a très bien pris le livre, il était, je crois, assez content que je l'écrive. Et mes parents ne l'ont pas lu. Et nous en avons évidemment parlé avec mes parents, et j'ai senti en juin, quand on en a parlé, un petit mouvement de recul. À quoi je leur ai dit, mais vous sentiez obligé de rien. Surtout, je voulais pas qu'ils se forcent à le lire. Moi, je pense qu'ils ont raison de ne pas le lire.
Pourquoi ?
Parce que, vous savez, mes parents sont très âgés. Hein, ma mère va avoir 90 ans en 3 semaines et mon père a eu 98 ans hier. Hein, donc, ils ont peut-être à cet âge-là, on peut les ménager. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. La première partie du livre rappelle des réalités qu'ils n'ont peut-être pas envie de revoir. Et je le comprends parfaitement. Donc même si effectivement la fin du livre est très lumineuse et très joyeuse et très... Mais même ça, c'est beaucoup d'émotions. Donc voilà, je pense que... Bon, ils feront ce qu'ils veulent, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas lu. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Quant aux amis d'Edouard, les proches d'Edouard, bien, ils ont... Voilà, pareil, comme mon frère aîné, comme Antoine, mon frère aîné, ils étaient assez contents parce qu'ils retrouvaient l'Edouard qu'ils avaient tant aimé. Et donc, ils étaient assez, assez heureux de ça, je crois.
Vous faites un très beau portrait, ou en tout cas, l'image qui se dessine de vos parents dans le livre est très, très belle. Vous rendez aussi, d'une certaine manière, hommage à leur manière de s'être occupé
oui.
de votre frère.
Bah oui, parce que, vous savez, dans la littérature, très souvent, on cogne sur les parents.
Et dans la vie et dans les histoires de maladies mentales aussi.
Les malades mentaux font souvent éclater les familles, c'est rare. Mais nous, on a réussi ça. On en parlait avec mon frère aîné il n'y a pas longtemps. On a tenu. Nous avons tenu. Et mes parents, ils ont été, moi je trouve, absolument formidables, fiables. Ma mère n'a jamais eu le moindre mot. Le moindre agacement, alors que, vous savez, les mères sont souvent celles qui en prennent plus. Mes parents en ont pris plein la gueule, avec la maladie de leur fils. Ben, ils ont toujours été là. Et mon père a sauvé in extremis mon frère de l'interdiction bancaire. Vous voyez, c'est mon père qui a fait ça à 80 ans. Mes parents, ils ont été là. Voilà. Oui. Je les en remercie et je suis très heureux d'avoir eu des... Que la famille est tenue.
Le Book Club continue. Chaque jour à 7h dans l'émission, nous signalons des manifestations, des événements en lien avec la littérature et le livre. Aujourd'hui, je vous parle de la tenue du salon Lire en Poche, le salon des livres de poche qui se tient à Gradignan en Gironde à partir de demain et jusqu'à dimanche. Premier salon entièrement dédié aux livres de poche et salon qui fête cette année ses 20 ans d'existence, à l'occasion duquel un très grand nombre de rencontres autour d'auteurs, d'autrices sont organisées. On parlait tout à l'heure des limites peut-être de la rencontre avec les auteurs et les autrices. l'enthousiasme, mais malgré tout, vous pourrez aller écouter Sorge Chalandon, Pete Fromm, Florence Aubenas, Hervé Lecor ou encore Neige Sino en dialogue avec Emmanuel Carrère, entre autres, et puis aussi des auteurs jeunesse, Julien Bézia, le papa de Berck, par exemple, ou encore Timothée de Fombelle. On renvoie vers l'ensemble du programme sur le site internet de l'émission. Et je profite aussi de cet espace pour vous signaler que demain, dans Les Pieds sur Terre, sera diffusée une très belle série documentaire intitulée Même pas mort. Elle est signée Sophie Simoneau et réalisée par Sylvain Richard. Sophie Simoneau y retrace le parcours d'un jeune homme qui était le fils d'une amie à elle qui s'appelait Guillaume et souffrait de dépression. C'est une série à la fois haletante et bouleversante. Elle est à écouter en intégralité dès demain sur l'appli Radio France.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Chaque jour à 7h dans l'émission, on joue à trouver de la musique dans des livres, chers auditeurs et auditrices. Si dans vos lectures, vous repérez un passage qui évoque un morceau de musique, faites-en une petite photo et envoyez-la nous à l'adresse mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram de l'émission. On pioche dans vos suggestions pour alimenter cette séquence de l'émission. Mais aujourd'hui, on l'a dit, il est pas mal question de musique dans votre livre, David Thomas, musique que votre frère pratiquait. Alors, on se quitte avec un extrait de ce texte. Le mot blues vient d'une abréviation de l'expression Blue Devils, ces diables bleus qui hantaient les âmes soumises par la force. Aucune musique ne pouvait mieux que celle-là dire les tourments d'Edouard, ses douleurs. Le blues était son langage. Nulle ambition de faire joli, de créer de belles mélodies, mais seulement d'être le reflet d'un état, de faire le récit, par la musique, des nœuds et des douleurs. Avec ses diables bleus du Delta, Édouard exprimait à qui voulait bien l'entendre ce qu'il était, ce qu'il vivait. Le blues était pour lui une musique de l'âme et de la liberté. Quand il jouait, il rejoignait ses griots et ses conteurs de vie en lambeaux. Ceux qui ne sont rien inventent des rites à partir de ce rien et les animent de leur voix. En jouant, il semblait remonter à une source, celle de son âme. Il avait trouvé ses prophètes. Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Bessie Smith, T-Bone Walker, Albert Collins, Lightning Sam Hopkins, Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Hound Dog Taylor, John Lee Hooker disaient ses messes avec leur musique.
Station with a suitcase in my hand, and I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain.
Un très grand merci, David
merci
Thomas.
Merci à vous. Et merci, on peut pas mieux finir qu'en écoutant Robert Johnson, merveilleux, et Love in Vain, qu'il adorait, morceau qu'il jouait admirablement. Donc, merci beaucoup.
Ah ben merci beaucoup à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Un frère. Il a paru aux éditions de l'Olivier et on lui souhaite une longue et belle vie. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vivien Demeyer, au son Noé Chabanne. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club, Marianne Chassor, Jeanne Aléo, Cyril Marchand, Garance Roubieux et Alexandre Alaï-Begovic qui poursuit la conversation sur le compte Instagram de l'émission. Bon après-midi sur France Culture.